Bonjour, je suis Bob.
Et bonjour, je suis Ali.
Bienvenue dans l'appel de Cthulhu.
Cthulhu, oui, votre podcast club de littérature où chaque mois, nous nous téléphonons pour nous demander bien Cthulhu et nous prenons le temps de décrypter un classique que nous n'avions pas encore eu la chance de découvrir. Moi, je suis Ali et avec moi, pour co-présenter cette émission, j'aurai à mes côtés Bob. Donc, bonjour Bob, comment ça va ?
Bonjour Zali, écoute, ça va super bien, hein. Il fait beau, c'est cool.
Il fait beau, voilà, chez moi il fait 1 milliard de degrés, donc c'est les bonnes conditions pour enregistrer une émission. Et donc c'est notre vrai numéro 1, hein. Nous avons fait un premier pilote et voilà, nous faisons maintenant un second pilote. Mais un second pilote de quoi ? De nous qui parlons de littérature, puisque c'est tous les deux notre passion. On peut même dire qu'on s'est rencontrés un peu vaguement grâce au livre. Est-ce que tu peux nous resituer rapidement ?
Tout à fait. Eh bien, nous avons fait connaissance, toi et moi, pendant nos années fac. Et du coup, par la suite, on a fait des tas de trucs différents. Et puis, on s'est retrouvés à l'occasion de différents podcasts comme ça que nous avons fait ensemble. Et on s'est dit, Zali, Bob, pourquoi on ne ferait pas un podcast de littérature où qu'on cause de ce qu'on a lu ? Et notamment des classiques qu'on n'a jamais pris le temps de lire.
Eh ben banco, on le fait, c'est parti, voilà. Et puis c'est un bon prétexte pour se dire, on a des tas de trucs qu'on devrait avoir lus, c'est la honte qu'on ne l'ait pas fait. Et c'est l'occasion de le faire. Et d'ailleurs, on va commencer par du lourd, hein, puisque toi et moi, on aime bien la littérature un peu de l'imaginaire. Et puis comme un peu beaucoup de gens qui aiment bien la littérature de l'imaginaire, il y a des bases qu'on n'a pas forcément. Et on s'est dit que ni toi ni moi, nous n'avions lu 20 000 lieues sous les mers, figure-toi.
Tout à fait, et ça,
Il fallait qu'on répare ça, c'est fait. D'ailleurs, nous dirons en seconde partie d'émission ce que nous en avons pensé, puisque dans un premier temps, nous allons simplement nous raconter quel est le dernier livre que nous avons lu. Et voilà. Donc, comme ça, c'est bien, ça nous force à lire. On est obligé, on ne peut pas dire « oui, mais il y avait une série trop intéressante. voilà, je ne peux pas, j'ai pas le temps, je suis fatigué. J'ai mal aux yeux le soir parce que je suis un papy. »
Ça a été à peu près pour 20 milieux sous les mers. J'étais « ah non, il faut que je lise. »
Non, moi, ça va, j'étais en vacances, c'était bien, j'ai chillé. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc,
tout à fait.
Nous allons laisser passer une légère virgule sonore et puis nous allons nous retrouver juste après et tu vas nous raconter ce que tu as lu ce mois-ci.
Oui.
Donc Bob, qu'as-tu lu ce mois-ci ? Je t'écoute attentivement.
Eh bien, j'ai lu « Tu comprendras quand tu seras plus grande » de Virginie Grimaldi.
Sapristi.
Sapristi, voilà, c'est ça, c'est petites lectures girly de vacances, tout ça. Non, en fait, pour tout dire, c'est ma mère qui me l'a offert en me disant « Lis ma fille, tu verras, c'est trop bien ». Alors j'ai dit « Bon, d'accord, maman, je vais lire ».
Et en même temps, c'est un truc de maman hein, d'offrir un truc qui s'appellera « Tu comprendras quand tu seras plus grande ».
Ouais, clairement. Mais c'est parce qu'une de mes sœurs l'avait donné à maman et maman, elle m'a dit « Faut que j'en achète un exemplaire à ma fille, machin ». Bon, bref, oui, parce qu'on est plusieurs filles. Alors, qu'est-ce que je voulais dire dessus ? Ça raconte l'histoire d'une jeune femme trentenaire qui habite Paris et pour qui tout va bien. Elle a un petit ami, elle est psy dans une clinique d'esthétique, elle a un appart, elle regarde Game of Thrones, enfin voilà, tout va bien. Sauf que y a le décès du père qui intervient. Et là, ça la plonge dans une situation émotionnelle compliquée à gérer. Et elle décide de tout plaquer pour un job temporaire de psy dans une maison de retraite à Biarritz. Donc c'est la maison de retraite Les Tamaris. Et pourquoi Biarritz ? C'est bien parce qu'on apprend qu'en fait elle vient de là-bas, la petite Vénarde. Et donc voilà, ça c'est un peu le pitch de départ sans dévoiler de trop. Alors, concernant l'auteur, c'est une Virginie Grimaldi, c'est une quarantenaire bordelaise, celui-là c'est son deuxième livre, mais elle en a déjà écrit 4. Et c'est à partir de 2009 qu'elle a commencé à percer à la suite d'un concours de nouvelles y écrire au féminin. Je sais pas si tu vois un petit peu
Oui, j'en ai entendu parler plusieurs fois dans des appels à texte, des appels à concours. Je crois que c'est quelque chose qui est organisé de manière annuelle, me semble-t-il.
Oui, voilà, c'est ça. Ça doit faire 8 ans maintenant que c'est mis en place. Ouais. Et puis au féminin, c'est un.
Enfin, c'est le plus gros magazine féminin sur Internet, on peut le dire ça.
Oui, voilà. Après, moi, je trouve que c'est débile de catégoriser la presse par genre sexuel, mais bon, après.
Oui,
voilà,
mais au niveau du marketing, voilà, au niveau du marketing, oui, c'est, voilà, ça existe.
Voilà, c'est caca, mais ça existe. Alors, et donc, à la suite de ça, boum, elle écrit son premier roman dans la foulée, le premier jour du reste de ma vie, qui a bien marché, il paraît. Et puis, le deuxième, tu comprendras quand tu seras plus grande. Alors, bon, moi, j'ai trouvé ça franchement sympa à lire. Hein, faut pas, voilà. Bon, j'aime bien, de toute façon, tout ce qui est un peu chick-lit, beat-lit, trucs comme ça, lecture facile. Mais d'habitude, c'est plutôt des Américains que je lis, parce que les Français, ils ont un petit peu de mal à écrire du bon truc qui se lit bien. Et là, ça, franchement, ça se lit vraiment très très bien. On s'identifie vite à l'héroïne. Elle fait pas mal de références à la culture pop, donc à Game of Thrones. Elle fait aussi référence à Plus belle la vie. Elle parle d'amour. Elle parle aussi de la vie tout court. Et ça m'a fait pleurer par moments, oh, hein, il faut le dire. Oui, j'ai eu ma petite larme. À un moment donné, j'ai appelé ma maman. Tu fais maman.
Le livre, il fait pleurer.
Le livre, il fait pleurer. Pourquoi tu m'as offert ça? Donc, il y a une grande sensibilité et puis aussi une grande profondeur des sentiments. C'est pas gnangnan. C'est pas vraiment pas gnangnan. Ou alors, je suis gnangnan, mais je ne le savais pas. Et puis, il y a aussi pas mal d'humour. Il faut aussi le reconnaître. Genre, une petite blague comme ça. Monsieur et Madame Zetoffrey ont une fille. Comment l'appelle-t-il?
Bah, je dis Mélanie, mais parce que j'ai le conducteur sous le nez.
Mais oui, parce que Mélanie Zetoffrey, bon.
Alors, moi, ça me fait un peu pleurer, effectivement, ce genre d'humour, je ne peux pas dire le contraire.
Mais non, mais t'imagines, c'est un petit vieux qui dit ça, la nana, enfin bref, bon, c'est tout mignon. Voilà, donc c'est assez fluide au niveau du style, il y a des métaphores et des comparaisons qui sont marrantes. Le point négatif pour moi, c'est la fin. Parce que, bon, elle est bien, ça fait chaud au petit cœur, tout ça, c'est mignon, mais il y a une sorte de cliffhanger qui fait que j'ai l'impression d'avoir été le dindon de la farce, en fait. Tu vois que c'est un peu pipé dès le départ, un peu comme les histoires où on dit « Ah, mais en fait, c'était un rêve
!» le meilleur dispositif narratif de l'univers.
Voilà, c'est ça. Donc là, il manque une donnée dès le départ qu'on t'annonce à la fin, et ça, j'aime pas.
Ah,
ça, c'est le côté que j'aime pas. Voilà. Mais une fois passé ça, enfin une fois que l'histoire est vraiment très belle, et ouais, je conseille de lire ça, ça se lit vraiment très facilement, ça vide l'esprit, ça fait pleurer, ça fait rire, et puis ça donne envie d'appeler ses parents et puis de se réconcilier avec sa famille, quoi, c'est clair. Donc c'est beau.
Ouais, et puis je crois qu'en plus ça avait été un très très gros succès hein, quand c'était sorti, tu comprendras quand tu seras plus grande, parce que...
Ouais, ça va être aussi adapté au cinéma, je crois. Ouais.
Ah bah voilà, j'espère qu'il y aura Christian Clavier dans le rôle du papa.
Ah non, jamais le vais le voir sinon, jamais.
Mais tu sais, c'est contractuellement, oui. Si un papa n'est pas joué par Kad Merad au cinéma, il est joué par Christian Clavier, c'est obligatoire, ah, sinon le CNC ne te donne pas d'argent.
Il serait pas longtemps dans le film, mais quand même, quoi.
Mais quand même, trop horrible. Pour un caméo. Est-ce que tu dirais, est-ce que tu dirais que c'est un parfait livre d'été? Parce que pour moi, dans ma tête, c'est le genre de livre, alors je suis pas forcément le public cible, entre guillemets, même si encore une fois, c'est plus le marketing que moi qui décide ça, mais c'est le type de livre.
Oui, parce que c'est lisible, je pense que c'est lisible par tous les hommes, hein,
Je pense que, tu sais, moi j'ai lu de la biblique et tout ça, hein, donc je pense que tout est lisible par tout le monde. Mais
oui, voilà, c'est ça.
J'ai plus tendance, en fait, à considérer que ça, c'est des livres qu'il faut que je lise dans des contextes particuliers, comme vraiment pas dans ma maison, tu vois, en voyage, en vacances, le moment où c'est le livre oublié au fond d'un sac.
Tu peux le lire dans ta maison à partir du moment où tu as un jardin et que tu peux être sous le soleil et que tu te fais bronzer et que tu lis en même temps.
Voilà. Oui. Alors moi, je n'ai pas de jardin, je n'ai même pas de balcon, figure-toi. Donc,
je suis navrée pour toi, mais le fait est que oui, c'est un livre pour l'été, c'est un livre tranquille, détente, complètement. Ouais.
Bon, eh bien, c'est...
Comme tu regarderais New Girl à la télé, tu vois.
Oui, c'est vrai, New Girl, une série dont j'ai regardé une saison et demie avant d'en oublier l'existence, mais j'ai passé un bon moment.
Oui, eh bien je la rappelle à ton esprit.
Tu sais, je crois que ça continue toujours d'ailleurs, New Girl, donc peut-être dans l'indifférence générale.
Oui, j'étais en train de regarder le premier épisode de la saison 5 avant de parler.
Bon, bah voilà, c'est pour ça, comme quoi effectivement, ça existe encore, nous l'avons retrouvé pour vous.
Oui.
Donc voilà, ça s'appelle « Tu comprendras quand tu seras plus grande » de Virginie Grimaldi, et voilà, et tu nous le recommandes.
Oui, voilà, c'est vraiment de la lecture facile. C'est agréable parce que pour une fois, c'est quelque chose de français avec des références françaises. Donc ça,
oui, comme
ça
Game of Thrones, par exemple.
Non, mais à part Game of Thrones, mais je veux dire, elle se tape un délire sur Plus belle la vie qui est juste marrant parce que voilà, c'est rigolo. Je ne regarde pas Plus belle la vie et au départ, l'héroïne ne le regarde pas et elle est obligée de regarder pour X raisons. Et après, elle se tape un délire là-dessus c'est sympa. Franchement, il faudrait beaucoup plus de bouquins comme ça.
Appel aux éditeurs, n'hésitez pas.
Voilà, mais de qualité, hein, s'il vous plaît. Et toi, Zali, qu'est-ce que tu as lu ? Qu'as-tu lu ?
Eh bien, j'ai lu alors quelque chose qui m'a mis presque d'aussi bonne humeur que tu comprendras quand tu seras plus grande. Parce que je dirais que dans une certaine mesure, c'est également une lecture assez légère. Maintenant, c'est une ambiance qui va être radicalement différente, tu vas voir. Puisque je vais t'emmener dans un livre qui s'appelle « Québec, Bill Bonhomme » de Howard Frank Mosher. Alors déjà, évidemment, je vais le préciser. J'ai acheté ce livre parce qu'il s'appelle Québec Bill Bonhomme. Hein. J'étais en train de flâner dans une librairie.
C'est le titre, en fait.
Mais c'est complètement le titre. Alors là, c'est. J'aimerais des fois que dans cette émission, on revienne sur qu'est-ce qu'est le rôle d'un éditeur. Notamment, le rôle d'un éditeur, c'est de trouver le titre d'un livre.
Ouais.
Et le titre d'un livre, bah, des fois, ça peut servir à faire vendre, puisque le titre original de Québec Bill Bonhomme, c'est Disappearance, donc simplement disparition. Et je peux te dire que c'est absolument certain que si j'étais passé devant un livre de poche qui s'était appelé Disparition, j'aurais même pas retourné la quatrième de couverture. Or, Québec Bill Bonhomme, je trouve ça tellement. Voilà. Je trouve ça tellement.
La question,
formidable.
C'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé comme ça ?
Alors, parce que c'est le nom du personnage principal. Mais je vais y revenir. Je vais d'abord te présenter l'auteur. Un auteur qui est complètement inconnu en France. Howard Frank Mosher, bien qu'il ait sorti, je crois, une quinzaine de bouquins, il est décédé d'ailleurs très récemment. Il est décédé, je crois, l'année dernière. C'est un écrivain américain dont l'intégralité de l'œuvre en fait reste quasiment inédite en français, à part Québec Bill Bonhomme.
Appel aux éditeurs là.
Et ben voilà, donc c'est Cambourakis hein, qui a tiré la première salve donc en éditant ce livre. Howard Frank Mosher, c'est l'écrivain des royaumes du Nord-Est. Ce que les Américains appellent le royaume du Nord-Est, c'est le Vermont, qui est à la fois un État américain et en fait une grande région géographique à cheval entre le Nord-Est des États-Unis et le Canada. Donc c'est une région de lacs et de forêts. Et Howard Frank Mosher, en fait, c'est un grand connaisseur de cette région et de toutes les légendes qu'il y a dans ce coin-là, parce que c'est évidemment une région où il y avait beaucoup de tribus indiennes, mais aussi une région où il y a eu les premiers Américains, enfin les Américains de premiers Anglo-Saxons sont arrivés. Il y avait des trappeurs français, il y avait et voilà, et tous ces gens-là ont vécu beaucoup d'aventures qui se sont racontées de génération en génération. Et il l'a raconté en fait dans ses livres. Et ses livres ne parlent que de ça, ne parlent que de cette région du Vermont et du Royaume du Nord-Est. Disappearance, donc Québec Bill Bonhomme, c'est son tout premier livre qu'il a sorti en 1977. Il aura donc fallu attendre 2013 hein, qu'il soit traduit en France, donc ça fait une date. C'est fort dommage. Mieux vaut tard que jamais, mais c'est exactement ça. Et c'est tout à fait le genre de truc qu'aurait pu dire le personnage principal, donc Québec Bill Bonhomme, puisque c'est son nom. Alors de quoi ça parle, Québec Bill Bonhomme ? Bah, c'est tout simplement l'histoire de Québec Bill, qui est un Américain du Vermont, mais qui habite à quelques kilomètres de la frontière canadienne. Donc ça se passe en 1932. Et Québec Bill Bonhomme, c'est le genre de type que tu as envie d'avoir pour ami, même si ça doit être un peu pénible de vivre avec. En fait, c'est une sorte de, je sais pas comment dire, d'otaku du printemps. Il adore le printemps, il adore la nature, genre, il récite des poèmes sur la nature, il joue du violon dans son jardin, il élève ses vaches tranquillement dans son coin, et genre, il saoule tout le monde avec ses histoires du Vermont, de la nature qui est tellement belle et du soleil qui est tellement beau et du printemps qui revient et oh regarde les feuilles elles sentent ci, elles sentent ça, ça veut dire que dans quelques jours il fera beau et tout ça, enfin, genre il est fasciné par la nature mais presque comme un enfant peut être fasciné par ses jouets. Et sauf que voilà, son année 1932 elle se passe pas très bien puisqu'en fait il y a eu un hiver particulièrement rude et il a plus de fourrage pour son bétail. Voilà, sachant qu'il a pas énormément d'argent puisque contrairement à la plupart des autres familles qui vivent dans la région, il ne s'est pas enrichi avec le trafic de whisky. Puisque toutes les autres, c'est la prohibition, donc toutes les familles du coin, elles se sont mises à trafiquer du whisky dans les 20 années qui précèdent. Tout le monde s'est acheté des grosses villas, etc. Non, Québec Bill Bonhomme, il a préféré continuer à élever ses vaches, sauf que là, ça se passe pas bien, il a plus de quoi les nourrir. Donc il finit par donner à ses vaches des patates. Et bah, spoiler, on ne nourrit pas des vaches avec des patates.
Non.
Donc ça ne se passe pas très bien et il doit se retrouver en urgence. En fait, il doit trouver de l'argent en urgence, hein, simplement pour assurer la subsistance de sa famille pendant l'hiver. Donc il va tout simplement décider de s'embarquer avec son fils Wild Bill, qui est le narrateur du livre, son beau-frère qui possède une Cadillac parce que lui il est très riche, et Ra, donc comme un rat, qui est son garçon d'écurie, un mec un peu crasseux comme ça. Ils vont tous les quatre monter dans la Cadillac du beau-frère et ils vont partir chercher des caisses de whisky au Canada. Bah, ils vont traverser le lac Memphremagog, figure-toi, qui est un vrai lac, hein, au nom biblique très, très inquiétant, c'est un lac qui sépare les États-Unis du Canada à cet endroit-là. Ils vont monter dans un rumboat. Donc les rumboats, c'était ces bateaux qui ont été développés à l'époque avec des moteurs surpuissants. Hein, c'est les ancêtres des bateaux de plaisance pour faire du ski nautique. Mais en fait, les rumboats, ils allaient très vite pour échapper à la police. Très pratique. Et ils vont aller piquer du whisky à Carcajou. Alors Carcajou, c'est genre la personne à qui il ne faut pas voler du whisky, mais eux, ils sont insouciants, ils s'en fichent, ils y vont. Et Carcajou, c'est tout simplement l'incarnation du mal. Voilà, Carcajou, c'est un démon.
À
forme humaine, mais il est présenté comme ça. C'est-à-dire que c'est une espèce d'entité malfaisante et démoniaque qui gère un petit peu le trafic de whisky dans la région. Et évidemment, eux, c'est un peu débracassé, donc ils vont pas très bien s'y prendre pour voler ce whisky. Et ils vont se retrouver tout simplement poursuivis par Carcajou et par son armée de sbires dans les forêts canadiennes. Alors que l'expédition est toujours menée par ce fameux Québec Bill Bonhomme qui est toujours bon an mal an. Il dit mais c'est pas grave, on est poursuivi, tout ira bien, j'ai confiance, tout se passe bien. Et en fait, tout simplement, ça raconte le livre raconte l'histoire de cette course-poursuite à travers les forêts désolées du Canada des années 30 et des États-Unis des années 30. Et c'est absolument fascinant, tout simplement parce que Howard Frank Mosher, il connaît un petit peu cette technique fascinante c'est fascinant et c'est fabuleux, qu'ont les conteurs québécois, tu sais, de mettre une histoire dans une histoire dans une histoire, donc à la fois chaque personnage va raconter l'histoire de ses ancêtres. Il y a des veillées au coin du feu où on va te raconter les légendes locales, il y a des sortes de PNJ quoi, qui vont te dire oui mais si tu vas là-bas tu verras telle personne qui va te raconter la formidable histoire de la forêt de Magog, etc. Enfin, c'est du coup cette espèce de décorum qui se déploie comme un tapis.
Je crois qu'en vrai, il y avait vraiment des gens qui allaient de droite à gauche pour avoir des histoires.
Mais complètement, hein, c'est toute l'histoire des vagabonds dans les années 30 qui colportaient notamment toutes ces légendes urbaines. Il faut voir qu'à cette époque-là aussi, les États-Unis sont en plein marasme économique. Hein, on est en plein dans les conséquences
après,
de la crise de 1929. Voilà, beaucoup de gens émigrent au Canada. Ouais. Donc il y a cette frontière de l'État du Royaume du Nord-Est qui est extrêmement poreuse. Donc les gens circulent, s'échangent des histoires, s'échangent des biens. Et voilà, enfin bref, tout ça pour dire que c'est un roman qui est à la fois mélancolique et fascinant. Et c'est pas anecdotique en fait qui se déroule en 1932, parce que Québec Bill Bonhomme, c'est un roman aussi qui est crépusculaire, puisqu'il raconte en fait la toute fin d'une époque, la fin de l'époque de la prohibition et la fin de l'époque de la prospérité américaine, hein, qui reviendra qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est fascinant parce que ça décrit très bien à la fois la misère en fait de la classe ouvrière et des fermiers américains à cette époque-là, puisque Québec Bill Bonhomme, il a beau être très optimiste, en fait il est surtout très très pauvre, contrairement à la plupart de ses voisins qui eux sont sortis de la pauvreté, mais en fait ils s'en sont sortis par le crime et par le trafic.
Ouais, et puis ils sont dans l'angoisse de tout perdre aussi, donc du coup ils sont
exactement,
ils sont moins moins de bonhomie que Québec Bill Bonhomme.
Exactement, et c'est exactement le cas du personnage du beau-frère, en fait, qui lui est très très attaché à sa Cadillac. Spoiler, hein, elle va pas très bien finir sa Cadillac, puisque c'est pas fait pour les courses-poursuites. Donc il est très attaché à ça, parce qu'en fait, il a utilisé plein d'argent, et puis à un moment donné, t'as une scène que je trouve extraordinaire, où Québec Bill Bonhomme lui dit « Mais c'est pas grave, je vais te la rembourser, ta Cadillac, avec le produit de l'argent du whisky, nous allons gagner 1 000 $, c'est formidable, 1 000 $ et tout. » Donc là, tu vas pas racheter une Cadillac avec 1 000 $, c'est pas possible, espèce d'abruti quoi. Donc bon, tout ça pour dire que c'est vraiment moi un roman qui m'a fait passer un très 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 bon moment. C'est un excellent point d'entrée à toute cette technique de conte nord-américaine, québécoise, à la culture rurale du nord des États-Unis, tout en étant un peu moins flippant que les romans de Stephen King, hein, qui se déroulent exactement dans la même région, puisque Certes, il y a des moments.
Oui, voilà, parce que je me disais, ça me rappelle quelque chose, cette région-là. Mais oui, voilà, c'est pour ça. Ouais.
En fait, le Vermont, c'est juste au sud du Maine, qui est l'état où se passent quasiment tous les livres de Stephen King. On est juste un petit peu au sud, mais c'est la même région, en fait. Hein. Donc c'est vraiment un très, très chouette livre que je recommande chaudement. Il a été adapté en film en 2006. Mais le film est inédit chez nous, il s'appelle tout simplement Disappearance. Il peut se louer en VOD, donc si vous voulez tenter l'expérience. Et notamment, il a été remarqué parce que Québec Bill Bonhomme est joué par Chris Christopherson, qui est un acteur qui est aussi un chanteur de country très connu et qui a parfaitement la tête pour jouer ça. Donc, j'ai pas vu moi-même le film, mais la bande-annonce m'a donné envie de m'y intéresser, ne serait-ce que parce que les paysages du Vermont, c'est quelque chose qui me parle tout particulièrement.
Ils sont beaux.
Ah, c'est magnifique. Ouais. Et puis, dans le livre, c'est décrit avec une précision et avec une poésie que je trouve formidable. Ouais.
Digne de Jules Verne ou
Un peu moins académique peut-être. On en parlera juste après. Peut-être un peu moins clinique comme description. C'est-à-dire que il arrive à la fois à t'évoquer la puissance de ces forêts, de ces marécages et de ce trafic de whisky, sans te décrire la composition du bois de chaque caisse de whisky et la manière dont chaque bouchon est enfoncé dans chaque bouteille. Voilà. En même temps, je pense que Howard Frank Mosher n'était pas payé à la ligne comme pouvait l'être ce pauvre Jules Verne. On va en parler juste après.
Ouais, c'est clair, le pauvre. Ouais. Ouais. Il en a chié.
tout ça pour dire que ça s'appelle Québec Bill Bonhomme, c'est publié chez Cambourakis et c'est de Howard Frank Mosher, et j'espère que d'autres livres de cet auteur seront publiés chez nous, puisque personnellement je me jetterai dessus avec avidité.
Très bien, c'est noté. Avis à Cambourakis, s'il vous plaît, faites la suite.
Faites la suite, voilà, sortez la suite, hop hop hop. Si vous écoutez l'appel de Cthulhu, hein, vous savez quoi faire.
Voilà, hein, on vous l'enverra par mail ou je ne sais pas, on trouvera une solution. Bisous.
On trouvera, voilà, on vous faxera tout ça. Donc voilà, nous en arrivons au cœur de notre problème du jour. Notre problème du jour, quel est-il ? Bob, je te le demande. Notre problème du jour, c'est 20 000 lieues sous les mers, puisque l'objet de cette émission, voilà, l'objet de cette émission est de dire que chaque mois, nous allons nous confronter à un classique de la littérature, souvent avec un petit prisme science-fiction, fantastique et tout ça, parce qu'on aime bien ça.
Oui, quand même, il faut le reconnaître, hein, voilà.
Voilà, et on s'est dit qu'on allait commencer par un ultra giga classique, hein, parce qu'on va remonter jusqu'au 19e siècle, à l'époque où même le terme de science-fiction n'existait même pas encore vraiment. Hein, on parlait de merveilleux, de littérature de découverte, etc. Mais on ne savait pas exactement qualifier ce type de roman. Mais en tout cas, le terme de science-fiction, voilà, arrivera bien plus tard, arrivera presque 50 ans après 20 milieux sous les mers. Voilà. Alors, 20 milieux sous les mers, mais je te le demande, Bob, mais qu'est-ce que c'est ?
Oui, c'est un livre de Jules Verne, voilà, qui a été écrit en quelle année, je ne sais plus, 1886.
Il a été écrit entre 1869 et 1870, voilà.
Entre 1869 et 1870. D'ailleurs, je crois que c'est George Sand qui a écrit à Hetzel en disant « Oui, il faudrait que ce gars-là, Jules Verne, il écrive un bouquin là-dessus, ça serait super cool. »
Le petit
me semble, mais... Voilà. À vérifier. Et Jules Verne, ayant été très touché que Georges Sand l'ait remarqué, a dit d'accord. Voilà.
Sachant qu'on est sur un Jules Verne plutôt en début de carrière. Hein. On est sur un Jules Verne qui commence déjà à être connu et à être lu, mais on n'est que quelques années après Voyage au centre de la Terre, qui est son premier vrai succès.
Ouais, voilà. Et alors, de quoi est-il question dans 20 milieux sous les mers ? Parce que moi, personnellement, je pensais qu'il allait descendre 20 milieux sous les mers.
Et non, c'est pas exactement ça. En fait, il parcourt 20 milieux en étant sous la mer. C'est pas exactement la même
voilà.
chose. C'est pas littéralement, il descend et il traverse.
Voilà. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais je pensais à ça. Et donc là, j'ai été plutôt surprise pour le coup, puisque je m'étais pas du tout renseignée plus que ça. Que non, c'est la traque d'un sous-marin. Et lui, il s'amuse à faire le tour du monde, en fait. Et il l'explore comme ça, avec à son bord des personnages qui sont prisonniers et puis d'autres personnages qui ne sont pas prisonniers. Voilà.
C'est ça en très gros, effectivement c'est ça, c'est quelques personnes qui vont traquer, au début pense-t-il, une sorte de baleine indestructible, et en fait non, c'est le sous-marin du capitaine Nemo, voilà, et ils vont se
retrouver
obligés de faire le tour du monde avec lui. Alors, en étant plus voilà. ou moins de, plus, en ayant plus ou moins envie de rester à bord, selon les cas.
Voilà. Les scientifiques, le scientifique, lui, il est archi pour parce qu'il trouve ça super kiffant de voir tous ses polypes sous la mer.
Voilà. Son domestique.
Je
ne
sais pas combien de fois le mot polype est
polype.
Écrit.
Polype.
Et puis, donc lui, il est tout fan. Moi, au début, j'étais toute fan aussi. Et puis, il y a Conseil qui est son valet.
Oui,
son valet
d'ailleurs,
de chambre, alors, en gros, qui le suit partout. Ouais.
C'est un personnage très unidimensionnel comme quasiment tous les personnages de Jules Verne. C'est-à-dire que ce sont des personnages fonctions. C'est-à-dire que le professeur, ouais, il fait de la science et il est curieux. Le domestique qui donne des conseils, il s'appelle Conseil. Voilà, et
voilà.
Il ne fait rien d'autre.
Au moins, c'est pratique.
Voilà, c'est ça.
Et on sait comme ça.
Exactement. Et il y a donc un gros bourrin, baleinier canadien, ouais, Ned, voilà, qui est juste un gros bourrin, en fait. Voilà.
J'allais dire Ned Stark, mais non, c'est
Ned
pas
Stark.
La même chose.
Non,
mais
c'est Ned Land, voilà, Ned Land, qui est un pêcheur canadien.
Ned Land. Voilà, voilà, qui est gentil. Hein, au final, il supporte assez bien pendant un certain temps l'incarcération, mais il sert pas à grand chose quand même dans le roman. Non,
non, il est gentil, mais en fait, c'est un gars qui a des coups de sang. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que Jules Verne, qui est très au fait de l'anglophobie de son temps, passe son temps, oui, quand Ned Land fait des trucs gentils, il passe son temps à rappeler qu'il est quand même d'ascendance française. Et quand il fait des trucs méchants, il dit le Canadien, l'anglo-saxon,
oui,
et tout ça.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez drôle, ouais. Ouais,
c'est,
ouais,
c'est,
ouais,
comme si on disait le brave oriental, tu vois, pour un chinois quand tu fais des trucs sympas, et le méchant chinois quand tu fais des trucs méchants. Mais
ouais,
je le cite à raison, puisque l'éditeur de Jules Verne lui avait demandé de mettre des personnages chinois qui auraient été des comic reliefs, en fait, des petits éléments comiques qui auraient été là à droite à gauche à faire des trucs de chinois rigolos. Et là, Jules Verne a dit non, mais on peut pas faire ça quand même. Est-ce qu'on pourrait d'abord dire, bah, grosso modo, est-ce qu'on a bien aimé un milieu sous les mers? Est-ce que toi, déjà, t'as passé un bon moment en le lisant?
Alors, au début, ouais. Et alors, en fait, après, je me suis quand même bien fait chier parce que les descriptions, c'était toujours le même vocabulaire. Sur l'instant, je trouvais ça beau. Et après, ben, j'en avais marre, c'était redondant. Et puis, c'est long. Ouais. J'ai commencé à passer, en fait, les pages, ce que je ne fais que très rarement. Il faut vraiment, vraiment... Faut vraiment y aller pour que je passe les pages. Mais là, ouais, non, j'en ai passé, c'était juste pas possible. Par contre, il y a vraiment beaucoup de choses sous la mer, hein, ça c'est sûr. Et est-ce que tout était vrai? Ça, je ne sais pas. Au niveau des descriptions des animaux, mais j'ai eu la flemme de faire les recherches.
Il y en avait trop. Je te le dis honnêtement. Déjà, tout n'est pas exact, puisque l'état de la science, et notamment de l'état de la science de la mer à cette époque-là, elle n'est pas aussi aboutie que maintenant. Je pense à
ce
fabuleux passage où Jules Verne, dans un élan d'écologie, dit qu'il ne faut pas tuer les baleines parce que c'est des animaux formidables et que bientôt, il n'y en aura plus, mais que par contre, je ne sais plus quoi, les espadons et tout, on peut y aller parce qu'ils sont méchants. Du coup,
oui,
c'est un massacre.
Ouais, c'est ce côté un peu... Ouais, il y avait ce côté un peu bizarre où d'un coup... Enfin, au départ, ils sont tous... au départ, ils veulent tuer tout ce qu'ils ont. Ils veulent tout détruire, quoi.
Ouais.
Tout ce qui est nouveau, il faut qu'ils le détruisent pour faire la chasse, machin, machin. Après, bizarrement, ils sont là plutôt... Non, il faut préserver, machin. C'est un peu ambigu.
C'est un peu ambigu
là-dessus, quand même.
Mais c'est parce que, tout simplement... Alors moi je vais le dire aussi, c'est un livre que j'ai bien aimé. Mais très rapidement, dès que je voyais un paragraphe de description de trucs, et notamment d'animaux ou de végétaux, je sautais parce qu'il y a un côté... encore une fois, on l'a dit un peu tout à l'heure, il était payé à la ligne, Jules Verne. Donc il fallait qu'il envoie beaucoup de caractères pour toucher plein d'argent.
Ah bah,
donc il déléguait
son intrigue. Il en
envoyait plein.
Hein. Je pense que là, avec ça, il est devenu riche. Hein.
Bah, pas vraiment, parce que... il est devenu riche in fine, parce qu'il a sorti plein de livres qui sont tous très bien vendus. Mais à l'époque, c'était... plutôt une vie de forçat, en fait, hein,
le
métier d'écrivain. Bon, ça l'est toujours, d'ailleurs. Mais il fallait écrire beaucoup pour toucher un peu d'argent, et les gens étaient vraiment payés à la tonne. Hein. Donc, comment on fait pour être payé à la tonne? Dès qu'on va dans une forêt sous-marine, on va décrire la moindre algue par le détail.
Polype.
On va ouvrir une encyclopédie de la mer et on va décrire absolument tous les articles. Jules Verne a écrit des dictionnaires, hein, dans sa vie, et il faut dire que ça se sent
c'est
un
clair.
Peu. Ouais, ça se sent un peu.
Ah bah oui, complètement, là, ça se sent, oui.
Voilà. Donc, moi, j'ai passé un très bon moment. J'étais très content de découvrir... une œuvre dont j'avais déjà vu des adaptations en film.
Ah oui, alors moi, j'avais dû en voir un quand j'étais gosse. j'avais des souvenirs et qui étaient totalement tronqués par rapport à ce que je lisais, en fait.
Voilà. Et ben, en fait, moi, j'ai surtout vu le film de Disney quand j'étais petit, qui édulcore quand même pas mal de choses hein, du livre, puisque 20 milieux sous les mers, ça reste un livre qui est assez violent. Il y a des scènes quand même qui sont assez brutales, des scènes de chasse, des scènes de massacre.
Même quand ils ouvrent comme ça et qu'on voit le bateau qui coule.
Oui.
T'as ce passage-là, il a été assez saisissant quand même. Hein. Il est
il est rude. Hein, on est d'accord. Il y en a d'autres que moi j'ai trouvé très poétiques et très beaux. Typiquement le moment où il découvre. Alors on va spoiler un peu, hein, donc.
Mais tout le monde connaît.
Le moment où il découvre l'Atlantide, en fait, tout simplement, où Nemo leur dit, on va parler de Nemo après, mais il leur dit, faut que je vous montre quelque chose de formidable que personne d'autre n'a vu à part moi, etc. Et il les emmène dans les ruines, de l'Atlantide en l'occurrence, mais ça aurait été n'importe quelle autre civilisation engloutie, ça aurait été tout aussi.
Moi, ça m'a un peu chagriné, c'est vrai, clairement, mais ce qui m'a chagriné, en fait, c'est quand il passe le détroit, tu sais, qui passe le Nil, tout ça, qui passe par en dessous le canal de Suez, tout ça, bizarrement, il n'a pas pensé qu'il pouvait y avoir des ruines à cet endroit-là aussi.
Non.
Et ça, moi, ça m'a rendu triste, et du coup, j'étais dans cette tristesse, donc quand il a découvert l'Atlantide, j'ai fait, c'est cool. Mais je suis triste.
Mais il a quand même découvert un tunnel magique sous le futur canal de Suez, donc c'est quand même bien. Il a découvert une sorte de warp zone pour c'est une warp zone pour entrer dans la Méditerranée.
C'est vrai que là-dessus, oui, bien sûr. Mais moi, c'est quand même le passage qui font une petite chasse où il va enterrer ses morts. Aussi, que j'ai trouvé assez poignant.
Oui, puisqu'il rend ses morts à la mer, en fait, hein, tout simplement. Il leur donne une sorte de sépulture éternelle au fond des eaux. En fait, on tourne un peu autour du pot, parce que là, en fait, on a complètement arrêté de parler des pauvres Aronnax, Conseil et Ned Land pour aborder un peu ce qui a marqué, fait, dans ce roman-là, la figure centrale de ce livre, qui est le mystérieux capitaine Nemo. Qui est devenu
celui qui a tourné le dos à la Terre.
Exactement, mais c'est devenu une figure de la pop culture, en fait, Nemo, dès son
mais
temps.
Mais grave.
C'est-à-dire que aujourd'hui, on a tout de suite une image mentale quand on dit Capitaine Nemo. On s'imagine le personnage avec sa casquette vissée sur le front, sur le pont de son sous-marin, en train de regarder l'infini.
Ouais, mais moi, je vois Capitaine Igloo, quoi.
Alors, c'est pas exactement la même façon d'aborder la mer. Ça. Mais ceci dit, ils ont tous les deux un tempérament assez glacial. Hein. Voilà, Capitaine Nemo, il va capturer les trois protagonistes du livre. Et par leur regard à eux, on va un petit peu découvrir du coup ce mystérieux capitaine de sous-marin qui a fabriqué un sous-marin à l'époque où c'était une technologie qui était envisagée mais pas encore réalisée. On avait l'idée de faire des sous-marins, mais on ne l'avait pas encore fait. De même que plein d'autres choses qu'on voit dans le livre. Hein,
des scaphandres de fou, quoi. Bah, et puis, il utilise l'électricité. Donc ça, c'est le principe d'utiliser l'électricité, c'est quand même très propre au 19e siècle en termes d'imagerie, d'énergie fantastique, en fait.
C'est ça, c'est-à-dire que l'électricité à l'époque...
Je pense à Frankenstein, à tout ça, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'électricité à cette époque-là, donc on est au dernier tiers du 19e siècle, c'est quelque chose dont on savait que ça allait pouvoir être utilisé pour faire des choses, mais qu'on ne maîtrisait pas encore correctement. C'est-à-dire qu'il y avait des prototypes d'ampoules, des choses comme ça, mais c'était à peu près dans le même état que l'informatique en 1950, quoi. C'est-à-dire qu'on savait que ça arrivait, mais c'était encore du domaine de la spéculation. Et là, effectivement, il montre un sous-marin intégralement éclairé à l'ampoule électrique. Et évidemment, les personnages sont fascinés, puisque notamment le scientifique, il sait que c'est possible. Donc, c'est pas de l'invention pure, mais il ne pensait pas le voir de son vivant.
Voilà, ouais, tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi avec le capitaine Nemo, c'est comme il a totalement tourné le dos à la Terre, je le redis, comme il se désintéresse totalement de l'humanité ou autre, il ne veut pas dépendre d'elle. Donc, quand il mange, c'est que des choses produites de la mer. Il n'a du tissu qui ne fait qu'avec des algues, c'est même de la fibre animale, il me semble,
c'est
non
ça,
je ne sais
oui.
plus.
Bah, en fait, c'est des fibres d'animaux qu'il récupère. Il fume des algues.
Il y a les fourrures. Il fume des algues, oui, tout à fait.
Il fume des algues, complètement.
C'est ouf. il est vraiment, il utilise que ça, et même quand il a des avaries, Bon, là, quand il a des avaries, c'est quand même plus compliqué. Il a un repère dans lequel il a quand même un stock.
Il a une sorte de matériel. Une sorte de base secrète dont on ne saura jamais exactement, du moins pas dans ce livre-là, comment il a amassé tout ça et comment il a fabriqué tout ça. On nous le décrit comme une sorte d'esprit génial, un penseur libre, quelqu'un qui n'est astreint à rien, qui n'a aucune contingence morale, etc. Mais qui est aussi, c'est une grande idée de la philosophie du 19e siècle, qu'on verra après chez des gens comme Nietzsche et tout ça. C'est-à-dire c'est cette idée qu'il y a une sorte de pur esprit qui peut germer, repousser toutes les choses du monde et faire des trucs formidables par la seule puissance de sa volonté, etc. Enfin,
on est vraiment plein dans cette idée-là. Quoi.
Mais Nemo, c'est une figure individualiste, en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est...
Clairement. Mais c'est un homme blessé.
Exactement.
C'est un homme blessé, on le sait quand même à un moment donné, parce qu'il pleure devant
on ne dira jamais que c'est sa femme et sa fille, on le devine en fait tout simplement.
Mais devant une femme et une fille, donc on se dit bon, quand même, ça doit être quand même quelque chose comme ça. Quoi. Ouais.
Et on apprend d'ailleurs à la toute fin du livre. Le livre, ça s'arrête assez brutalement, hein, puisque à un moment donné, Jules Verne est passé à autre chose, quoi. Et le principe de ces feuilletons à rallonge, c'est qu'on pouvait les arrêter un peu n'importe quand. On apprend à la fin du livre, en fait, qu'il est en rébellion contre une nation précise, qui n'est pas citée dans le livre. Et ça, c'est tout le génie de Jules Verne d'avoir refusé de dire exactement qui était Nemo et contre quoi il était en guerre. Et on comprend à la fin qu'en fait, c'est un homme qui est surtout rongé par la colère et qui est dans une oscillation permanente entre se retirer complètement du monde ou assouvir sa vengeance qui sera jamais vraiment assouvie la colère appelle la colère, etc. Et c'est à ce moment-là que les personnages faut pas rester avec lui, quoi.
Il est un peu toxique, le garçon.
Il est quand même mais c'est marrant parce que c'est présenté comme ça, quoi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est rongé en fait de l'intérieur par une vengeance.
Clairement. Il est très ambigu aussi à ce niveau-là. Il va aider des rébellions dans le globe en allant piller des vieux trésors qui rapportent comme ça, mais en même temps il veut plus du tout interagir, mais quand même il interagit. Ouais. Enfin, c'est très bizarre. Au final, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il leur disait de rester confinés. J'ai pas bien saisi. Qu'il allait attaquer des gens
ou
parce qu'il faisait des transactions.
Je pense qu'il faut pas chercher. C'est juste qu'il y a aucune putain de raison. En fait, c'est vraiment un trou dans l'intrigue.
D'accord.
Ouais. Ça.
Ouais, voilà.
Bon, au début,
ça arrive qu'une seule fois en plus.
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, on comprend vaguement. Qu'il leur dit il veut pas les laisser sortir, il veut rien leur dire parce qu'il a peur que ça fuite en fait l'histoire du Nautilus, et puis au final on se rend compte que c'est pas si important que ça, et puis enfin, pourquoi il leur dit pas cette histoire de vengeance alors qu'il leur dit, lui dit tout le reste, enfin, on ne sait pas trop
on ne sait pas mais le coup du Maelstrom ça fout les jetons.
Mais oui, puisque voilà, c'est littéralement un personnage qui finit avalé par la mer et dont le sort est laissé en suspens, et ça c'est pareil, c'est formidable parce que c'est comme si lui-même a tiré une catastrophe pour se faire disparaître. Enfin, c'est très très beau comme scène.
Oui, parce qu'il est quand même assez suicidaire, le gars.
Bah, son entreprise est complètement suicidaire. Hein, ça...
Voilà, non, la fin est bien.
La fin est très réussie. Et un des trucs qui est vraiment formidable et du génie de Jules Verne là-dedans, c'est que justement Nemo, c'est quelqu'un qui, à l'origine du projet, devait avoir une origine. C'est-à-dire que à la base, Jules Verne voulait que ce soit un noble déchu polonais, trahi par les Russes et qui a tout perdu à cause des Russes, etc. Là, son éditeur lui a dit, encore une fois, rôle de l'éditeur très important, lui a dit,
surtout Hetzel. Ouais.
Voilà, surtout Hetzel, hein, qui est un des grands éditeurs du 19e siècle. Là, son éditeur lui a dit, écoute, non, Jules, on va pas faire ça. Pourquoi? Tout simplement parce que tes livres, ils sont traduits en Russie et que la Russie, c'est un pays francophile, donc on va pas commencer à les entendre. ce serait mieux si c'était s'il venait d'un autre pays et que c'était un pourfendeur effectivement du colonialisme, de l'esclavage, etc. Bon.
Parce que au départ il voulait qu'il soit polonais, mais ensuite l'autre il lui a dit indien, puis après il a dit ouais mais au fait ça serait quand même pas mal s'il pouvait être pourfendeur de l'esclavagisme machin. Et là il a dit, Jules Verne il lui a écrit une lettre à Hetzel, il lui a dit non mais là j'ai la flemme, ça fait 2 ans que je vis avec mon personnage, je vais pas tout reprendre depuis le début, what the fuck.
Exactement.
Ce qui est compréhensible, somme toute, hein, c'est à un moment donné, même si ça aurait été pas mal qu'il soit pourfendeur de l'esclavage, mais...
Ouais, mais en fait, bon, voilà. au final, il finit par être plutôt pourfendeur de l'impérialisme, ce qui est un peu la même chose. Et puisque, en fait, on le voit dans un des chapitres, il apporte son soutien aux révolutionnaires grecs qui sont en pleine guerre d'indépendance contre l'Empire ottoman. On comprend par allusion, en fait, que les bateaux qu'il veut couler, c'est des bateaux anglais qui, à l'époque, dominent la mer et sont le plus gros empire colonial à part la France, mais ça faut pas en parler parce que quand même c'est la Troisième République et que on est en plein dedans.
Pas déconner non plus. Hop. Hein.
Voilà, et on apprendra du coup dans un livre ultérieur en fait que voilà l'origine que Jules Verne avait imaginée pour le capitaine Nemo, en fait, c'était celle d'un prince indien déchu et dépossédé de son pays par les méchants anglais et que du coup il s'est retiré du monde et il n'y revient que pour soutenir les luttes contre les grands empires coloniaux très très méchants comme l'Angleterre. Mais tout le génie de 20 milieux sur les mers, c'est de n'en dire mot et de n'y faire que des allusions. Et ça marche très bien. Et si on avait tout expliqué, je pense que ce livre aurait été moins intéressant et que la figure de Nemo aurait moins marqué, puisque c'est un personnage qui est construit par son mystère.
Oui. Voilà, bah le mystère, il n'y a que ça de vrai. De toute façon, ça là-dessus, il n'y a pas à tortiller du cul, hein, pour marcher
exactement.
Droit, comme on dit. Voilà.
Bon, voilà. Donc, on a dit pas mal de choses. Moi, je dirais que dans les points forts que je retiendrai du livre, et je pense qu'on était un peu d'accord là-dessus, hein, c'était la figure du capitaine Nemo. C'est un énorme sens de l'aventure quand même. Hein. On va dans tous les pays du monde, ça bouge dans tous les sens.
Oui, c'est vrai, c'est agréable. On rencontre des indigènes, tout ça. Et là encore, le capitaine Nemo refuse de les assassiner juste comme ça, alors qu'ils sont un peu agressifs. Il dit, mais non, on est sur leur territoire. Nous, on risque rien. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on leur ferait du mal. Ça, c'est beau.
Exactement.
Pour l'époque, je trouve que c'était sacrément courageux de balancer un discours comme ça. Quoi.
Ouais, en fait, mine de rien. C'est ça. C'est, ce qui est intéressant, c'est que Nemo, c'est un personnage qui ne s'attaque qu'au plus fort que lui. Il ne s'attaque jamais sans raison à des gens qui ne lui ont rien fait, enfin sauf les pauvres cachalots, hein, mais
oui, mais ça c'est parce qu'il avait un contentieux, je crois.
C'est ça. Ça s'est pas
parce
bien passé.
Parce qu'il bouffait les baleines, quoi. Merde, les baleines.
C'est terrible. Non, mais voilà, c'est la figure de quelqu'un qui effectivement ne s'attaque qu'au plus puissant que lui, et c'est aussi pour ça qu'il a inspiré. Hein,
bien sûr.
Et c'est notamment une figure dans le mouvement anarchiste, le capitaine Nemo, parce que c'est quelqu'un qui refuse les nations, qui refuse le pouvoir.
Marrant.
Bah oui. Il a été souvent assimilé à une figure de proto-anarchiste en fait. Hein.
Oui, ça se tient. Ben, ça se tient, oui, c'est sûr. C'est sûr.
Tient,
et tu savais que pour les illustrations de la première édition, Nemo il ressemble au colonel Charas, qui est un ami politicien de Hetzel, l'éditeur, et qui était mort quelques temps plus tôt, sans être revenu en France.
Eh bien, je ne le savais pas, mais merci pour ce trait.
Voilà.
Et merci au colonel Charas d'avoir prêté ses traits.
Voilà. Bon, il était mort, il le sait pas, mais on sait jamais des fois qu'il y a une vie au-delà et tout ça, quoi.
Merci au squelette du colonel Charas pour avoir fait ses traits.
J'ai été ce que tu es, un jour tu seras ce que je suis.
Exactement, ça fout les jetons. bon, voilà, on en a déjà un peu parlé, mais il y a quand même quelques petits points faibles dans 20 milieux sous les mers, notamment ces foutues pages de catalogue, cette espèce d'inventaire interminable de toutes les découvertes scientifiques et zoologiques.
C'est épuisant. Je suis quand même très patiente en général, hein, mais là, non.
J'ai découvert en préparant un peu l'émission qu'il existait du coup de nombreuses éditions entre guillemets scolaires de 20 milieux sous les mers expurgées des fois de
d'accord.
plus de 250 pages en fait sur 400.
Ah bah je... À l'aise.
C'est quand même un livre qui a 400 pages, dont 200 de catalogues. Ouais. C'est même pas des descriptions, c'est vraiment des catalogues. C'est dans la mer, vous trouvez des saumons, des dorades, des baleines, des cachalots, des espadons, des machats. Donc ça, vous voulez sauter, si vous lisez que ça vous saoule, vous voulez sauter, vous allez à la prochaine aventure. De toute façon, en début de paragraphe, s'il se passe quelque chose, on vous le dira. Hein.
Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Bon, c'est le truc le plus pénible, le plus relou du truc, ouais. Pour moi, c'est le plus gros point faible, le reste est très très bon.
Ouais, très bon.
Au départ, j'étais même surpris, je me dis, ah, mais en fait, c'est toujours aussi lisible, enfin, c'est super lisible, alors que, voilà, je suis au 21e siècle, c'est vachement lisible, c'est trop cool, et c'est un petit peu fané, machin, mais c'est largement bien. Mais après, non, j'ai dit, non, en fait... Non, il faut expurger tout ça.
Tous les textes de 150 ans ne sont pas aussi lisibles que celui-ci. Voilà, celui-ci
ah
a
non,
juste
oui,
un petit problème de surdescription, surdescription voilà. de type de dictionnaire, mais qui s'élude très bien
mais
à la lecture si on les
saute. Voilà.
Ça reste chouette.
Voilà, exactement. Et c'est ça qui est très fort, c'est que son style, malgré tout, reste contemporain, alors que le machin, il a 150 ans voilà, quand même, je veux dire, chapeau bas le monsieur.
Exactement. Eh bien, écoute, on peut aussi dire quand même, pour finir et pour conclure, que c'est une œuvre qui a eu un impact extrêmement important sur la culture et la pop culture. Aujourd'hui, quand on dit 20 000 lieues sous les mers, même sans l'avoir lu, on a l'image du Capitaine Nemo, encore une fois, des sous-marins.
Ou alors du vaisseau à côté de Space Mountain dans Disneyland.
Mais ne serait-ce que ça, voilà. C'est, en général, pour être devenu une attraction de Disney, c'est qu'il faut avoir marqué la culture mondiale d'une manière ou d'une autre.
Bien
quoi.
Sûr. Non, mais c'est clair.
Voilà, il y a eu de nombreux films qui ont adapté 20 000 lieues sous les mers, notamment un très célèbre en 1956 de Disney, on en a parlé. Il y a eu aussi, genre le entre guillemets, remake japonais Nadia et le secret de l'eau bleue qui a lourdement marqué l'animation japonaise. C'est plus ou moins basé sur 20 000 lieues sous les mers, hein. C'est pas exactement
la
même chose.
Je connais pas, j'ai pas vu.
En fait, c'est. Bah, franchement, si t'as rien à faire de la fin de ton été, tu te regardes les 40 et quelques épisodes de Nadia et le secret de l'eau bleue, qui est une série qui a complètement annoncé plein de trucs dans l'animation japonaise. Ça date du début des années 90. Et c'est une sorte de dream team de toutes les meilleures personnes qui vont travailler dans la Japanime dans les années suivantes, quoi. C'est une réinterprétation, en fait, de 20 000 lieues sous les mers. Enfin, là, en l'occurrence, c'est très, très libre. Mais ça prend les mêmes thématiques pour y répondre différemment et c'est vraiment très très beau.
D'accord, très bien, ben merci pour ce nouveau titre. Et sinon aussi, l'œuvre, ça a inspiré le genre steampunk au final, l'ère victorienne, mais pas que, aussi tout ce qu'il y avait dans Jules Verne a inspiré le steampunk.
Complètement, et particulièrement ce livre en fait, qui prenait aussi ce motif du steampunk de dire, voilà, on va foutre du métal, des tuyaux qui fument partout et de la compression et de l'électricité magique et on va partir à l'aventure et ça va faire de la vapeur et on aura tous des vêtements trop classe. Enfin,
et on est tous des gentlemen.
voilà, et c'est formidable. Et on se bat pour des causes plus grandes que nous, etc. C'est vraiment tous ces trucs qu'on va retrouver dans le romantisme steampunk, en fait. Ils sont complètement cristallisés dans ce livre-là, quoi. Même l'aspect, on est là pour la science, parce qu'on est des gentlemen de la science. Tu
Mais
vois,
oui, c'est, ouais, c'est... complètement. Ouais, c'est ça, c'est le côté, le caractère scientifique de le héros est scientifique, c'est quand même ouf.
Le héros, voilà, mais. Franchement, le héros, c'est vraiment un type, dans la vraie vie, il se ferait taper à l'école, tu vois, c'est son domestique, en fait, conseil, lui, il est encore pire, quoi, c'est-à-dire que c'est un gars qui ne vit que pour classifier des trucs dans des herbiers, quoi, enfin,
c'est clair, il a beaucoup de toc.
C'est un mec qui est monomaniaque du classement, tu le mets à la lettre A du dictionnaire, tu le retrouves à la lettre N 4 jours plus tard, il a pas mangé, il a pas bu, quoi,
c'est clair, il a la bave qui commence à couler.
C'est ça, comme ça. Voilà. Mais c'est conseil, il est gentil, tu le tournes vers la lumière, tu l'arroses une fois de temps en temps, c'est bon, il est content, quoi.
C'est un peu ça, oui.
Bon, enfin bref, voilà.
Non,
donc, voilà, on peut dire
on
que ce... voilà, on a quand même plutôt passé un assez bon moment. Et moi, je ne regrette pas de l'avoir lu, malgré les moments où effectivement je peinais un peu.
Pour moi, ça reste bof.
Ça reste
même
mitigé.
Si je conçois. Voilà, ça reste mitigé, même si il a énormément de force, mais voilà, c'est chiant à lire, il faut le savoir, il faut s'y préparer.
Ok, eh bien, je suis d'accord avec cette analyse. Voilà.
Ouais, ça me fait plaisir.
Eh bien, écoute, c'est formidable. Est-ce qu'on ne se choisirait pas un livre pour la prochaine fois ?
Si. Alors moi, j'avais pensé à un truc en rapport avec une actu qu'on m'a envoyé plusieurs fois par message ou autre, qui était que je sais plus où, en Suède ou au Danemark, je sais plus trop, enfin quelque part dans les pays du Nord que je connais pas très bien, il y a eu des empoisonnements, des empoisonnements à cause d'un livre.
Ah.
Et donc, je me suis dit, mais Le Nom de la Rose, je l'ai vu en film, je sais pas combien de fois, mais je suis pas sûre de l'avoir lu.
Alors, figure-toi que j'adore le film. J'adore le film et j'adore Umberto Eco, dont j'ai notamment lu toute la prose critique, puisqu'il a fait une histoire de la beauté et une histoire de la laideur. Et les deux m'ont absolument retourné. J'avais lu également, il y a fort longtemps, Le Pendule de Foucault, donc un autre de ses grands
titres. J'ai lu Le Pendule,
Et bah écoute, Le Nom de la Rose, je pense pas l'avoir lu, ou en tout cas, si je l'ai lu, le souvenir en est trop lointain pour que je m'en souvienne.
Je sais
que c'est un des livres préférés de ma maman. Donc,
Mais c'est l'émission des mamans.
C'est l'émission des mamans. Et d'une très bonne façon, ça pourrait être pire, dit comme ça. Et oui, donc Le Nom de la Rose, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement chaud pour qu'on se revoie dans un mois et qu'on se parle du Nom de la Rose, ainsi que de n'importe quoi d'autre qu'on aura lu d'ici là. On se parle de tout ça dans un mois, pas, ni plus ni moins. Et en attendant, on va faire un petit message d'au revoir. Pour dire simplement que nous étions Bob et Zali, que nous sommes l'appel de Cthulhu, actuellement donc toujours à l'état de pilote, mais on espère que vous écouterez très très vite cette émission sur un réseau de podcasts bien connu dans lequel je fais déjà des podcasts et qui n'est pas le Calvin Ball Consortium, donc c'est l'autre. donc nous allons soumettre cette émission de ce pas, dès que j'en aurai fait le montage, et puis on nous dira.
On vous aime, dites oui.
On vous aime, dites oui. Non, ça dépend surtout de la qualité sonore du montage que je vais faire. Donc,
Et nous vous disons donc.
Eh bien, au mois prochain, et surtout, si vous avez envie, eh bien, lisez bien.
Lisez bien,
voilà, à la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, pas du tout, au mois prochain, tu vois, j'arrive à me prendre les pieds dans le tapis.
T'es en train de regarder trop souvent l'émission sur France 5 des plantes.
Ah, c'est pas
et
ça.
Et à la semaine prochaine.
C'est juste l'habitude. Juste l'habitude d'enregistrer un podcast par semaine.
Au mois prochain, on fait.